Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Une manifestation contre le juge qui enquête sur l'explosion au port de Beyrouth a dégénéré ce jeudi. Rassemblement organisé par le Hezbollah et le mouvement Hamal. Des tirs ont fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés. Notre invité sera l'ancien ministre libanais Marwan Amadeh. Suite à ces violences dans la capitale libanaise, la France appelle à l'apaisement. Paris se dit vivement préoccupé. Les tensions entre Paris et Alger, le chef de la diplomatie française a réaffirmé à l'Assemblée nationale son respect fondamental de la souveraineté algérienne. Vous entendrez Jean-Yves Le Drian. Le report d'un an du 18e sommet de la francophonie, il devait se tenir les 20 et 21 novembre prochains à Djerba, en Tunisie. Le regard de la société civile après la nomination du gouvernement mardi en Tunisie, gouvernement dirigé pour la première fois par une femme, Najla Boudène Ramdane, entretien dans votre édition avec Alem Bousserwell, secrétaire général de l'association tunisienne des femmes démocrates. Une frappe aérienne israélienne dans le centre de la Syrie a fait 9 morts parmi des combattants alliés au gouvernement syrien, une frappe sur la province de Homs. Cela fera samedi un an, l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, était décapité par un jeune tchétchène de 18 ans à la sortie du collège dans lequel il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. Vive tension à Beyrouth. Des centaines de partisans du Hezbollah et du mouvement Hamal se sont rassemblés ce jeudi devant le palais de justice de la capitale libanaise. Des tirs ont fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés. Un rassemblement pour protester contre le mandat d'arrêt lancé contre le député Ali Hassan Khalil dans le cadre de l'enquête sur les explosions du 4 août 2020 au port de Beyrouth. Sur ces tensions et sur la situation au Liban, entretien avec l'ancien ministre libanais Marwan Amadeh.
Cette situation libanaise est le produit normal de cette hégémonie permanente du Hezbollah sur l'État libanais. Une hégémonie contre laquelle tous les pays du monde ont mis en garde et que le gouvernement formé sous l'égide de la France n'a pas réglé le problème. Et on se retrouve maintenant avec une menace de désordre civil d'une gravité sans précédent. Et je pense que si l'armée libanaise ne prend pas elle-même les choses en main, faisant fi et des humeurs et du président de la République Michel Aoun et de l'autre part du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, nous risquons de précipiter le pays dans une division qui rappellerait celle des années sombres qui avait commencé en 1975. L'armée libanaise reste le dernier recours actuellement. Elle est sur scène. Elle va essayer de colmater les brèches. Nous sommes à un moment où nous avons une secrétaire d'État américaine qui vient d'arriver à Beyrouth et qui reçoit en pleine figure ce paysage sombre et du Liban. Donc, ni le gouvernement formé au terme de 13-14 mois d'efforts français, dit-on avec l'Iran ou sans l'Iran, on ne sait pas très bien, tout ceci n'a pas permis de surmonter l'enquête sur le port de Beyrouth et l'escalade de Hassan Nasrallah, du chef du Hezbollah, montre bien qu'ils ne seront pas tout à fait étrangers d'une manière ou d'une autre à cette explosion. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il est allé si loin dans les menaces proférées à l'encontre du juge Bitar, qui est un simple juge d'instruction, mais qui a demandé d'auditionner en tant qu'accusé trois anciens ministres et un député.
Et ces violences interviennent après que la Cour de cassation au Liban a rejeté des plaintes déposées par deux anciens ministres contre le juge justement chargé de l'enquête sur l'explosion.
Le fait que tous ces anciens ministres ou députés soient d'obédience ou Hamal ou Hezbollah font que on retrouve un peu la magistrature libanaise confrontation avec ces partis-là. Et il se fait, c'est peut-être un hasard, mais il se fait que les juges étant de confession chrétienne, ceci a été mal perçu chez les partis chiites, et qu'on se retrouve maintenant donc dans une situation où il faut très vite désamorcer cette chose, non pas en limogeant les juges, ce qui serait la pire des opérations à faire, mais calmant d'abord le terrain, essayant de sauver le gouvernement qui bat de l'aile, bien qu'il n'a pas deux semaines d'existence, et peut-être de ramener à la raison tous ceux qui, à la tête du pays, en tête de ceux-là, il y a Michel Aoun et Hassan Nasrallah, ont précipité le pays dans cet isolement et dans cet effondrement économique et social.
Et cette tension confessionnelle que vous mettez en lumière peut-elle être liée au traumatisme particulièrement important vécu par les Libanais lors de cette explosion du 4 août 2020 ?
Absolument, parce que il se fait que les quartiers limitrophes du port de Beyrouth sont essentiellement des quartiers chrétiens, que c'est les quartiers qui ont été les plus endommagés, encore que les victimes appartenaient à toutes les communautés, chiites, sunnites, druzes, chrétiens de toute confession. Donc les Libanais ont tous payé le tribut de cette terrible explosion, il y a des forces qui, évidemment, ne veulent pas que l'enquête progresse, et c'est les forces qui étaient soupçonnées dès le début d'avoir importé ce nitrate d'ammonium pour l'utiliser à des fins d'explosifs au service de Bachar el-Assad en Syrie.
L'ancien ministre libanais Marwan Amadé, le chef de l'État Michel Aoun et le premier ministre Najib Mikati ont appelé au calme ce jeudi alors que l'armée a été déployée en masse sur les lieux des affrontements à Beyrouth. Suite à ces violences dans la capitale libanaise, la France appelle à l'apaisement et se dit vivement préoccupée. La France indique qu'elle a soutenu à toutes les étapes les investigations sur l'explosion du port et répondu à l'ensemble des requêtes qui lui ont été adressées dans le cadre de l'enquête libanaise. Paris estime que la justice libanaise doit pouvoir travailler de manière indépendante et impartiale dans le cadre de cette enquête, sans entrave et avec le plein soutien des autorités libanaises. Une frappe aérienne israélienne dans le centre de la Syrie a fait 9 morts parmi des combattants alliés au gouvernement syrien. Une frappe sur la province de Homs, une annonce de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La semaine dernière, toujours selon l'OSDH, une frappe de missile par Israël contre la même base aérienne et ses alentours a tué 2 combattants étrangers pro-Iran. Il devait se tenir les 20 et 21 novembre prochains à Djerba, en Tunisie. Le 18e sommet de la francophonie est reporté d'un an. Une décision prise à l'issue d'une réunion du Conseil permanent de la francophonie. Objectif, selon l'Organisation internationale de la francophonie, permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales. Washington a félicité la Tunisie pour la formation de son nouveau gouvernement. Les États-Unis expriment leur aspiration à l'instauration d'un processus inclusif impliquant tous les protagonistes pour un retour rapide au cadre constitutionnel. Le regard de la société civile après la nomination de ce gouvernement mardi en Tunisie, gouvernement dirigé pour la première fois par une femme, Najla Bouden Ramdan, entretient avec Alem Bousserwel, secrétaire général de l'Association tunisienne des femmes démocrates.
Il faut dire que voir une chef à la tête du gouvernement tunisien est un point très positif et qu'il faut le prendre comme un pas en avant. La nomination aussi d'un total de 38% exactement, 10 femmes sur 26 secrétaires d'État et ministres, est un point positif et c'est une grande avancée par rapport à la représentativité des femmes dans les postes de décision. Une des demandes que nous avons déjà élaborées dans notre mémorandum féministe, en fin août, en disant qu'aujourd'hui, c'est le moment, d'y aller vers la parité, sauf qu'on a demandé la parité. On n'a pas demandé 38%, mais on a demandé la parité. C'est comme ça que les choses se traitent, et on estime qu'on n'a pas atteint la parité, mais nous reconnaissons effectivement l'avancée, et l'avancée même historique, du fait d'avoir 10 femmes dans un gouvernement d'État exceptionnel, parce que c'est aussi, ce sont des mesures exceptionnelles jusqu'à maintenant, et après le décret 117, qui est le décret présidentiel. C'est là où se pose la question pour nous en tant qu'association, c'est qu'on se demande aussi aujourd'hui, et on se demande si ces 10 femmes qui ont eu même des postes importants comme le ministère de la Justice ou le ministère des Finances, est-ce qu'elles ont les mêmes prérogatives que d'autres ministres, puisque ils sont sous un état exceptionnel et l'état d'exceptionnel est annoncé avec ces mesures. Est-ce qu'elles ont les mêmes prérogatives? Est-ce qu'elles vont bénéficier du même statut? Est-ce qu'elles auront les mains libres, sachant que le nouveau gouvernement, entre guillemets, on le dit gouvernement, parce que c'est un conseil ministériel, et même la chef du gouvernement, elle est plutôt nommée première ministre, parce que le conseil ministériel, il se réunit sous la présidence du président de la République.
Vous vous interrogez sur les prérogatives de ce gouvernement suite aux mesures exceptionnelles prises par le président Kais Saied.
Exactement. Un décret qui était annoncé, le décret 117, le décret présidentiel 117, du 22 septembre, qui était quand même débattu et qui est encore débattu en Tunisie, et qui laisse ce gouvernement un peu, on va dire, pas vraiment un gouvernement, mais plutôt un conseil ministériel. Bon, on est heureuse certainement pour l'avancée, mais on est inquiète aussi en même temps dans une situation politique qui n'est pas claire, d'accord, où elles ont prêté serment sur la Constitution, mais sur aussi les législations. Vous voyez, ce qui ouvre la porte, effectivement, elles seront alignées, pas possible, au décret 117 et d'accord, mais comment? Le comment? C'est la question que la société civile en Tunisie, et plus particulièrement la TFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, se pose. Le deuxième point qui est aussi un peu ambigu, c'est la liberté d'expression et la liberté de la presse. Dimanche, il y a eu une grande manifestation, et durant cette manifestation, des groupes qui sont partis se manifester contre le président Kais Saied ou contre les procédures exceptionnelles et les mesures exceptionnelles prises par Kais Saied, on finit par agresser et violenter des journalistes et l'équipe plus particulièrement de la télévision nationale. Cette effervescence de la rue qui est quand même mélangée avec beaucoup de haine et un discours de haine contre les médias et contre la presse est dangereuse dans cette situation. Donc nous à la TFD, on est heureuse pour l'avancée, mais on est vigilante et on est prudente et on se pose la question comment ça va faire. Et on aimerait bien aussi attirer l'attention sur le fait que dans un état d'exception et dans des mesures exceptionnelles, il faut faire attention, les médias et la presse devraient jouer leur rôle. D'accord, devraient jouer leur rôle. D'ailleurs, le syndicat national des journalistes a demandé aux journalistes d'abandonner toutes les manifestations. C'est un peu aussi compliqué.
Et vous évoquiez la question des libertés. Craignez-vous un recul des libertés conquises lors de la Révolution?
Dans notre communiqué qui était le 24 septembre, juste après notre communiqué par rapport au décret présidentiel du 22 septembre, oui, la crainte, elle est là, elle est toujours là. Vous savez, tous les juristes qui ont parlé dernièrement de l'état d'exception, ils ont bien dit clairement que oui, l'état d'exception fait partie de l'état de droit, oui, mais que ils donnent quand même des mains libres de décision. Et c'est tout à fait normal, nous, en tant que société civile, qu'on doit rester vigilant et qu'on doit toujours plaider et qu'on doit faire notre vraiment rôle pour surveiller, d'éviter tout dépassement ou de aussi tirer les sonnettes d'alerte. C'est tout à fait normal et c'est attendu. Et on a déjà publié un communiqué qui a explicitement présenté nos prudences et nos vigilances et nos craintes par rapport aux mesures que le décret présidentiel du 117 présente, oui. Les craintes sont là.
Alem Bousserouel, secrétaire général de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Les tensions entre Paris et Alger. Le chef de la diplomatie française a affirmé à l'Assemblée nationale son respect fondamental de la souveraineté algérienne. Emmanuel Macron avait déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés par le journal Le Monde au début du mois. Le président français accusait, selon ses mots, le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle. Interrogé par la députée communiste Marie-Georges Buffet, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a adressé un message d'apaisement, Jean-Yves Le Drian.
Ces relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples, vous l'avez rappelé, sont anciennes, profondes. Elles sont marquées par des liens humains uniques. Et la France y est profondément attachée et souhaite les préserver et les développer. Et récemment, le président de la République a rappelé son profond respect pour le peuple algérien. Cela signifie aussi, bien sûr, et vous l'avez dit, le respect fondamental de la souveraineté algérienne. Cela veut dire aussi que c'est aux Algériens et à eux seuls de décider de leur destin et de définir les contours de leur choix et de leur débat politique. Mais nous sommes convaincus de l'intérêt commun de nos deux pays à travailler ensemble sur tous les secteurs. Cette vision des relations entre nos deux nations, elle est, je crois, partagée par beaucoup de responsables algériens à tout niveau. Pour certains d'entre eux, j'ai eu l'occasion de travailler de manière approfondie au cours des dernières années sur de nombreux sujets d'intérêt commun. Et nous sommes toujours parvenus, même dans la difficulté, à trouver des solutions lorsque des problèmes sont survenus. Cela vaut aussi, je le dis ici, sur les questions migratoires. Alors, sur les questions de mémoire que vous avez évoquées, le président de la République a engagé une démarche d'amitié et de lucidité sur toutes les blessures de l'histoire franco-algérienne. Il a confié à M. Storin un rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. C'est sur ces bases-là et sur toutes les questions posées par vous-même que nous devons avoir une relation apaisée avec notre passé commun. Et je sais que vous voulez y contribuer.
Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cela fera ce samedi un an l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire-géographie était décapité par un jeune Tchétchène de 18 ans à la sortie du collège dans lequel il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. C'était après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. 16 personnes sont mises en examen dans ce dossier, principalement pour complicité ou association de malfaiteurs terroristes, parmi elles 7 mineurs. Les établissements scolaires de toute la France sont invités à rendre hommage demain à Samuel Paty. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, accompagné des responsables de cette fédération ainsi que des imams, se rendra ce vendredi à Conflans-Sainte-Honorine pour rendre hommage à Samuel Paty. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, la République des hommes, point d'interrogation, Alexis Bachelet recevra Virginie Martin, politiste, autrice du Charme discret des séries, et Gabrielle Siri-Houari, porte-parole du Parti socialiste, autrice de La République et des hommes. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.